Française, français, belge, belge. Mon président, mon chien. Mon avocat, ma chienne. Mesdames et messieurs les jurés. Public chéri, mon putain d'amour. Bonjour ma colère, salut ma hargne et mon courroux, coucou. Jean-Marc Robert, mesdames et messieurs les jurés, est né le 3 mai 1954. 5 jours plus tard, c'était Dien Bien Phu. Étonnant, non? Et qu'on ne vienne pas me dire qu'il n'y a pas de relation de cause à effet. Dieu a oublié d'être con, sinon il n'existerait pas. Et s'il a voulu dans son infinie sagesse que coïncidasse étrangement la venue au monde de ce scribouillard logorique précoce et le plus grand désastre militaire français depuis Waterloo, ce n'est certainement pas par hasard. Et quand bien même ce serait par hasard, qui oserait nier ici que le hasard lui-même est une création de Dieu? Donc Jean-Marc, mon lapin, vous avez perdu l'Indochine. Ce n'est pas très joli. Je ne vous félicite pas. D'autant que cette guerre d'Indochine, mesdames et messieurs les jurés, fut une guerre sale et vulgaire, si l'on veut bien la comparer, par exemple, à la guerre de Troie. Ah, bah oui, la guerre de Troie, voilà, c'est une guerre qui avait de la gueule. Imaginez les Troyens au Tonkin, eux s'y seraient pris autrement. Imaginez un peu ce qu'aurait fait Ajax à Méniakoué pour effacer toute trace de jaune. De nombreux observateurs littéraires attentifs, aussitôt suivi par la horde moutonnière des broute-livres salonnards que hante sans trêve l'insupportable cauchemar de ne point être à la mode, ont tacitement décidé un jour que Jean-Marc Robert était l'écrivain le plus doué de sa génération. Avec à l'appui force exclamation dithyrambique sur son univers poético-bizarre et maintes comparaisons laudatives à l'œuvre de grands écrivains comme Patrick Modiano, l'inoubliable auteur. Que Jean-Marc Robert, mesdames et messieurs les jurés, soit l'écrivain le plus doué de sa génération, j'en suis personnellement convaincu. Et je ne doute pas qu'un jour, la lecture de ses livres me confortera dans cette opinion. Mais sincèrement, je vous le demande, en votre putain d'âme de bordel de conscience, mesdames et messieurs les jurés, peut-on revendiquer comme un exploit le fait d'être le plus doué dans cette génération post-68 arde de consternants tarés analphabétiques débordant d'inculture, que de soi-disant enseignants mongoloïdes, grabataires du cortex avant la quarantaine, continuent de mettre frileusement à l'abri du moindre effort de découverte pour ne pas leur perturber leur petit caca d'égo avec ou centrique et ne point épuiser leur frêle intelligence tendre chrysalide? Je ne parle pas seulement des tout-petits auxquels on enseigne dès la maternelle que chaussures s'écrient avec les pieds, ni des lycéens dont l'essentiel du bagage culturel enveloppe toute l'époque littéraire allant de Pif Gadget numéro 1 à Pif Gadget numéro 38 et qui mettent 2 ailes à Molière et aucune à Rimbaud, sordides crétins boutonneux boursouflés d'insignifiance. Non, je parle aussi et même et surtout des étudiants en lettres. J'en connais dans ma propre famille, il y en a plein les coussins, ça se vautre d'ennui en se goudronnant le poumon fumeux face à la télé blafarde d'où suinte frénétiquement et inévitablement cette lugubre bouillie verbale de rock à la con écrite directement au balai de chiottes par des handicapés mentaux dont la poésie de fond de poubelle oscille périlleusement entre le bredouillis parkinsonien et la vomissure nauséeuse que viennent leur cracher à la gueule de faméliques débris humains de 20 ans agonisant précoce, les cheveux et le foie teints en vert par les abus d'alcool et de fines herbes. Le tout avec la bénédiction sordide d'une intelligentsia crapoteuse, systématiquement transie d'admiration béate pour tout ce qui ressemble de près ou de loin à de la merde. Voilà comme ils sont les étudiants en lettres de par chez moi. Nantis, dorlotés, choyés, brossés, fringués, cirés, chouchoutés, argentés, motorisés, transportés en carrosse jusqu'au cœur même des bibliothèques pour ne pas qu'ils usent leurs pauvres petites papates fragiles de jeûne et ne point perturber leurs putains d'âmes de jeûne qui ont des problèmes de jeûne, merde, quoi. C'est le malaise des jeûnes qui les opprime, ces poussins. C'est ça, c'est pas autre chose. C'est la faute au malaise des jeunes si après 3 années de faculté et 7 ans de lycée, ils croient encore que le Monterland est un glacier alpin, Boris Vian un dissident soviétique et Sartre le chef-lieu de la rillette du Mans. C'est la faute au malaise de la jeunesse si tous ces jeunes tordus séniles précoces n'ont retenu de Jules Renard que les initiales JR. Alors, bien sûr, quand émerge de ce tas de minus avachis un seigneur de la trempe de celui-ci, il n'a guère à craindre de la concurrence. Et pendant ce temps-là, pendant que vous vivotiez votre vie creuse, fumier de feignants, de gosses de riches, de merde, pourris par la servilité sans borne de vos vieux comptes parents confis dans leur abrutissement cholestérique, Pendant ce temps-là, il y a des enfants de pauvres de 15 ans qui sont obligés, pour pas faire de peine à maman, de se planquer la nuit sous leur couverture avec une pile Vendée et un vieux petit Larousse périmé pour s'embellir l'âme et l'esprit entre deux journées d'usine, avec l'espoir au ventre de mieux comprendre un jour pour tâcher de se sortir du trou. Et des gens comme ça, ça existe, et j'en connais, et il y en a des pas loin d'ici. Donc Jean-Marc Robert est coupable, mais avant de céder la place à la traditionnelle minute d'expression corporelle ibérique, je ne résisterai pas au plaisir de conclure mon exposé littéraire de ce jour par la lecture d'un extrait d'un ouvrage contemporain impérissable et assez révélateur de la verve épique du style des jeunes auteurs modernes. Le livre s'appelle « Entre le ciel et l'enfer ». L'auteur en est Julio Iglesias. Si j'en juge par le style très in, il est permis de penser que l'auteur a pu se faire aider dans la transcription de ses souvenirs par un étudiant, voire même un professeur de lettres français. Je signale aux auditeurs que je fais actuellement circuler, si vous voulez bien, l'huissier, parmi le jury, des photocopies de l'extrait que je vais lire, afin que nul ne puisse m'accuser de déposer des virgules obscènes le long de ce texte superbe. C'est la page 195, le chapitre intitulé « Le pan de ma chemise qui dépassait ». Sans vouloir résumer, je dirais qu'après avoir raconté dans le chapitre précédent la couleur de ses chaussures, l'auteur nous révèle maintenant que chaque matin, il s'habille. Je m'habille sans me regarder dans la glace, je ne le fais qu'à la fin. Je passe d'abord ma chemise que je boutonne de haut en bas, puis mon pantalon. Rien ne vaut les chaussettes blanches de tennis, mais je ne peux tout de même pas les porter en scène. Alors je mets des chaussettes de soie noire. Je ne porte pas de ceinture, je n'en ai pas besoin. J'ajuste mon pantalon avec ma chemise par-dessus. C'est ainsi que je me peigne. Je sais que je ne dois pas tout de suite rentrer ma chemise dans mon pantalon. C'est pourquoi je la laisse dépasser le temps de mettre ma cravate. Je porte des cravates toutes simples, de couleur sombre, unies en soie. Mon pantalon est une sorte de seconde peau que je dois enfiler. C'est là le point commun avec les toreros. J'ai comme eux besoin d'aide. Il faut en effet que je tortille, qu'on tire sur le pantalon jusqu'à ce qu'il colle à moi comme une seconde peau. Je mets également mon gilet en le boutonnant lentement et j'ai besoin qu'il me fasse un peu mal et qu'il me serre. Toutes ces petites choses sont importantes pour moi, elles me rendent plus fort, me soutiennent sur scène. On dit que je dois une partie de mon succès à mes gilets. Je crois que c'est tout simplement parce que j'ai porté des gilets à une époque où on le considérait comme un vêtement démodé et où les jeunes portaient les cheveux longs et les jeans. Je m'habille ainsi depuis l'âge de 20 ans, il n'y a pas d'affectation dans ma tenue vestimentaire. Lorsque habillé, je me regarde alors dans la glace, généralement de profil. Il m'arrive parfois de pousser un grand cri de satisfaction. Alors il y a écrit là un A et 9 H derrière. Je pense que ça se lit oh. Donc Jean-Marc Robert est coupable, mais son avocat vous en convaincra mieux que moi.